Le 20, 21 et 22 août 2006, les éléments de la garde rapprochée du chef de l'État et celle du vice-président Bemba se sont affrontés à Kinshasa, ce qui a causé plusieurs morts et des dégâts matériels. À l'est du pays, le problème de brassage se pose. Certaines unités acceptent le brassage, d'autres, au contraire, n'en veulent pas. Dialogue entre Congolais a produit le 29 août 2006 une émission sur le problème du brassage de l'armée. Suivez. Okapi, Okapi. Bonsoir, la formation d'une armée nationale unifiée et intégrée figure parmi les principaux objectifs que l'accord global inclusif a assigné au gouvernement des transitions. Ce gouvernement, installé en 2003, a certes entamé une opération titanesque de désarmement et de démobilisation des anciens combattants et de création d'une nouvelle armée intégrée, mais le processus est loin d'être achevé. En effet, à quelques mois de l'installation de nouvelles institutions qui vont être issues des élections, certaines unités ne sont toujours pas brassées, d'autres posent des conditions avant de rejoindre ce processus et d'autres encore n'hésitent pas à s'affronter. Les auditeurs de cette émission sont déjà nombreux à réagir. Célestin Mbujimayi au Kasaï Oriental dit ceci: brasser toutes les gardes rapprochées de l'espace présidentiel doit être obligatoire et effectif avant le second tour. Un autre auditeur pense qu'il faut recycler moralement toute l'armée, lui inculquer l'esprit apolitique, sinon ça ne sert à rien de parler des brassages. Où en est-on avec le brassage de l'armée? Quelles sont les unités qui restent à brasser? Comment gérer les unités non brassées avant les élections provinciales et le deuxième tour des élections présidentielles? Les réponses à ces questions dans le dialogue entre Congolais de ce soir avec Son Excellence Adolphe Onosumba, ministre de la Défense, à qui nous disons bonsoir.
Bonsoir.
Honorable Raymond Omba, sénateur et président de la Commission Défense et Sécurité du Sénat, il intervient dans cette émission au téléphone. Bonsoir, colonel Raymond Omba.
Bonsoir, madame.
Colonel Jacques Ebenga, expert militaire, bonsoir.
Bonsoir, Audrey.
Vous voulez participer à l'émission? Envoyez vos SMS gratuitement de lundi à vendredi de 14h à 20h heure de Kinshasa au 099-8-999-222.
Encore une fois, bonsoir à vous tous qui êtes branchés sur les ondes des radios Okapi et qui suivez en ce moment cette émission. Le gouvernement avait pris l'engagement de former 18 brigades avant la fin de la transition, conformément aux prescrits de l'accord global et inclusif. Ces brigades brassées devraient constituer la nouvelle armée nationale réunifiée, mais jusqu'à ce jour, le brassage n'est pas encore achevé. Freddy Lufuluabo nous fait le point souvent.
Le brassage est une étape du processus de l'intégration de l'armée, c'est-à-dire de la formation d'une armée nationale réunifiée à partir des soldats issus des ex-composantes et entités. Les éléments de l'ancien gouvernement, du RCD, du MLC, du RCD-KML, du RCDN et Maïmaï, après leur brassage, sont placés sous un seul haut commandement unifié des FRDC. D'après la structure militaire d'intégration, SMI, les combattants évoluant à l'étranger comme les ex-FAS et les ex-Tigres devraient aussi subir leur brassage. À ce jour, il y a 12 brigades intégrées sorties des centres de brassage. Toujours selon la SMI, la 13e brigade vient à peine de terminer sa formation et attend d'être déployée sur le terrain. La 14e brigade poursuit encore sa formation à Rumangabo, au Nord Kivu. Les 12 brigades qui ont terminé leur brassage sont envoyées sur le terrain. La 1e, la 4e et la 6e brigade intégrées ont été déployées en Ituri et la 10e à l'Équateur. La 2e, la 9e et la 11e brigade intégrées sont opérationnelles au Nord Kivu. La 5e brigade a été envoyée au Kasaï occidental, tandis que la 3e, la 8e et la 12e brigade intégrée se trouvent au site Kivu. La 7e brigade intégrée formée à Kitona a été affectée à Kinshasa.
Monsieur le ministre de la Défense, nous commençons par vous, Monsieur Adolphe Onosumba. Alors sur les 18 brigades brassées, escomptées, 12 sont déjà en place. Comment comprendre qu'à la fin de la transition, le gouvernement n'est pas arrivé à relever ces défis?
D'abord, merci pour la question. Je dois avouer et reconnaître que nous avons connu beaucoup de difficultés pour avoir les 18 brigades contractuelles telles que nous étions engagés. Mais aujourd'hui, nous sommes à 14. Et je dois dire que dans les centres de brassage, tout compte fait, nous avons 11 200 à 74 éléments. Ce qui fait que si nous travaillons comme on l'a fait avec la structure militaire d'intégration, les centres de coordination des opérations conjointes et la CONADER, en respectant les activités de tronc commun, nous pouvons remplir les restes des centres de brassage, puisqu'il y a des centres où déjà nous avons plus de 1000 éléments et que nous pouvons toujours, si pas avant l'installation du prochain gouvernement, arriver à avoir 18 brigades intégrées.
Oui. Monsieur le ministre, vous parlez des problèmes que vous avez rencontrés. Quel genre de problèmes?
Les problèmes que nous avons rencontrés sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord le problème de transport des troupes, des éléments à être intégrés. Et comme vous le savez, il fallait respecter les éléments qui ont été convenus dans les documents, dans les plans nationaux stratégiques. Il y a les problèmes de vérification des armes, le problème d'identification des ex-combattants. Tous ces éléments mis ensemble ont fait que, bien sûr que le PAM nous a assistés et le transport, pour vous donner une idée, qui a été financé par la Banque mondiale à travers le PAM et les vols commerciaux privés, a coûté à la Côte d'Ivoire plus ou moins 24 millions de dollars. Ça veut dire que tout ça, c'est si on investit 24 millions pour transporter ces éléments des centres de regroupement vers les centres de brassage, autant on doit dépenser presque le même montant pour pouvoir les déplacer des centres de brassage vers les lieux de déploiement. Donc ça, ce sont aussi les éléments qui nous ont rendu la tâche difficile.
Honorable Raymond Omba, vous êtes sénateur et président de la Commission en défense et sécurité du Sénat. Le gouvernement des transitions avait comme objectif, l'un des principaux objectifs du mouvement des transitions était, à la fin de la transition, atteindre 18 brigades intégrées. Vous êtes au Sénat. Est-ce que vous avez contrôlé l'action du gouvernement par rapport à ce processus?
Merci madame pour la question. Le Sénat a fait son travail, c'est-à-dire que nous suivions plus ou moins indirectement ce qui se faisait sur le terrain. Mais déjà au départ, nous savions que le gouvernement aurait difficile à réunir les 18 brigades. Nous le savions.
Pourquoi?
Ben, on savait très bien que les problèmes que vient de signaler le ministre, nous les avions prévus. Les mouvements des soldats, madame, ce n'est pas la première fois qu'on le fait dans ce pays continent. On sait exactement les distances qui séparent les sites des endroits où il faut déployer les militaires. Donc c'était facile à calculer bien avant qu'on ne parle des 18 brigades. Ça, nous le savions qu'on aurait difficile à réunir les 18 brigades.
Donc, en quelque sorte, il s'est posé un problème de moyens, si on peut résumer vos deux interventions. Mais, colonel Jacques Ebenga, est-ce un problème vraiment des moyens qui fait qu'à ce jour, au lieu de 18 brigades intégrées, on n'en est qu'à 14, si on suit les dires du ministre?
Bon, monsieur le ministre, qui est en charge le volet logistique de la question, est plus indiqué que moi pour en parler. Je crois qu'il a tous les éléments d'information. Mais j'aimerais revenir à une affirmation que vous avez faite au départ, madame, qui disait que le dialogue intercongolais avait décidé du brassage de l'intégration des 8 brigades. Non, madame, le dialogue intercongolais a décidé de la formation d'une nouvelle armée. C'est plutôt la planification du ministère de la Défense et de l'État-major général qui a conduit à fixer ce volume de 18 avant les élections. Mais compte tenu des difficultés, comme l'a dit M. le ministre, sans doute cela n'est pas arrivé à se réaliser à temps. Mais j'aimerais peut-être déplorer avec M. le sénateur que la planification n'a pas pu non plus, je crois, être suffisante pour planifier ou pour prévoir les difficultés. Et on a ainsi fixé des dates successives qui étaient repoussées. Dans un document que j'ai ici de l'état-major général, on parlait du 30 juin 2005 et nous sommes à 2006 et on n'est pas encore arrivé à brasser les 18. On en est, comme a dit le monsieur le ministre, à 14. Donc il y a là ce problème de planification, mais également je voudrais relever ce qu'a dit monsieur le sénateur, qu'il a dit ils ont suivi plus ou moins indirectement. Alors je me pose la question. Entre le Parlement et le ministère de la Défense, s'il n'y a pas une méthode de suivi plus formelle qui aurait permis au Parlement de suivre réellement les activités d'intégration de l'armée. Il me semble que là, il y a une grande défaillance de communication entre le Parlement et le ministère de la Défense.
Oui, monsieur le ministre,
Un auditeur, il s'appelle Modeste Tchala, de Lubumbashi au Katanga. Il dit ceci, alors est-il possible de brasser toutes les troupes restantes avant les élections et par quel miracle?
Je dirais qu'il est difficile de brasser les unités, toutes les unités avant l'organisation des élections, comme le demande l'auditeur, puisque si on regarde les régions où il y a encore un grand nombre de militaires à brasser, c'est la garnison de Kinshasa avec 30 842, la 10e région militaire, c'est-à-dire le Sud Kivu avec 12 988, la 8e région, le Nord Kivu avec 8 581, et la 6e région militaire avec 14 166. Donc, c'est bien que ce sont les coins où il y a, il y a les 4 centres de brassage qui sont actifs. Mais ici, ce que nous voulons, c'est de brasser les éléments à travers tout le pays pour pouvoir créer une armée où tout Congolais se retrouve à mesure de servir le pays là où il y a des problèmes. Donc, ces problèmes de logistique se posant. Déjà, aujourd'hui, on a eu une réunion avec le responsable de la MONUC en préparation de la réunion de la commission chargée de nous assister dans la réforme du secret de sécurité pour pouvoir relever les difficultés qu'on a connues et voir dans quelle mesure on peut nous assister à pouvoir accélérer ce processus. Notre souci, c'est de le faire avant, mais comme tout le monde l'a reconnu, les difficultés logistiques font que les contraintes qu'il y a ne peuvent pas nous permettre de brasser tous ces éléments, puisque le brassage lui-même prend 45 jours. En pratique.
Donc à 2 mois des élections, certaines unités des FARDC ne sont toujours pas brassées. Alors nous allons voir où se trouvent ces unités et pourquoi ne sont-elles pas encore brassées. C'est avec notre confrère Claude Kianza. Suivant.
Selon le coordonnateur de la structure militaire d'intégration, le colonel Mbiato, les unités non encore brassées, dont il est difficile d'en préciser le nombre, se trouvent notamment au sein de la 8e région militaire au nord Kivu, à la 10e région militaire au sud Kivu et dans la 6e région militaire au Katanga. Au nord Kivu, par exemple, il s'agit d'une partie de la 81e et de la 83e brigade. Ces troupes, proches de Laurent Kunda, pose des préalables avant de rejoindre le processus de brassage. Quant au sud Kivu, il y a encore des unités non brassées ex-RCD dans les territoires de Shabunda, tandis que dans les territoires de Mwenga et de Fizi, toujours au sud Kivu, il y a des unités non brassées provenant des Maïmaï. Pour ce qui est du Katanga, il s'agit de la 62e et de la 63e brigade qui attendent toujours d'aller au brassage. Qu'en est-il alors du brassage des miliciens de l'Ituri qui, le mois passé, avaient manifesté leur intention d'intégrer l'armée nationale? Pourquoi toutes ces troupes ne sont toujours pas brassées? Selon le colonel Mbiato de la structure militaire d'intégration, c'est une question de temps et de moyens. Pour lui, si cette opération avait débuté un peu plus tôt qu'en décembre 2004, date du début de ce processus, le brassage n'aurait pas connu le retard actuel.
Oui, monsieur Adolphe, monsieur Basque, que vous êtes du même avis que le coordonnateur de la structure militaire d'intégration qui dit que c'est un problème des moyens qui fait que, à ces jours, certaines unités des FARDC ne sont pas encore brassées.
Oui, je suis de son avis, mais il y a un élément que je dois ajouter puisque, comme vous le remarquez, les 3 régions retenues, les régions militaires, sont les régions qui ont été classifiées comme des zones chaudes. Il y a l'Ituri, le Nord, le Sud Kivu et le Nord Katanga. Et avant l'organisation des élections, on ne pouvait pas relever les éléments non brassés qui s'y trouvaient avant de pouvoir déployer les éléments intégrés. C'est pourquoi vous voyez que même dans les déploiements qu'on a, il y a la 2e, la 9e et la 11e qui sont dans le Nord Kivu, la 3e, la 8e et la 12e qui sont dans le Sud Kivu, la 1e, la 4e et la 6e à l'Ituri. Ça, il y a eu aussi un problème de logistique puisque là, nous avions procédé au déploiement local, c'est-à-dire là où les militaires pouvaient soit aller par véhicule ou ceux qui ont marché pour aller vers le lieu de déploiement. Et maintenant que ces zones ont chacune 3 brigades intégrées, il est aussi facile de les relever par les éléments qui ne sont pas encore intégrés. Donc il y avait, au-delà de tous les problèmes qui ont été évoqués, ces problèmes de zones où il y avait des activités intenses avec les milices, les groupes armés étrangers et qui nécessitaient d'être couvertes avant de pouvoir dépasser tous les éléments qui s'y trouvaient.
Oui, dans ces zones-là, il y a des militaires qui sont favorables pour aller au brassage, mais on parle également de ces unités-là qui posent de préalables pour aller au brassage. Et un auditeur demande quelles sont les dispositions prises pour le militaire, par exemple, qui refuse le brassage. On se souviendra que vous étiez au Nord Kivu pour, par exemple, rencontrer les unités dont nous avons parlé là-bas, de la 83e brigade. Qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui est sorti au fait de cette rencontre-là? Quelles sont les dispositions que vous avez prises pour que ces unités aillent finalement au brassage?
Je dois avouer qu'aujourd'hui, madame, la situation a beaucoup évolué puisque il y a eu certainement des manipulations politiques, par exemple pour ce qui concerne les Maïmaï qui ne voulaient pas aller au brassage avant l'organisation des élections. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'éléments de la 83e et de la 81e brigade qui sont favorables à aller au centre de brassage. Et l'identification a déjà été faite, comme je peux vous le témoigner, puisque ici, ces éléments dont je vous ai donné les normes se retrouvent dans le centre de regroupement et ils attendent le contrôle et vérification de l'armement. Donc aujourd'hui, tout le monde comprend que nous regardons dans la même direction avec le souci de sécuriser tout le monde. Donc il y a le travail qui doit être fait entre les équipes mobiles d'identification où on trouve la MONUC, la CONADER, les CCOC, qui doit faire son travail et à partir de là savoir qui opte pour l'intégration et qui opte pour la démonisation.
Monsieur le ministre, vous avez utilisé les termes beaucoup, donc il y en a d'autres qui jusque-là n'ont pas encore donné leur accord. Et on sait qu'il y en a qui avaient posé des préalables devant vous avant de rejoindre le processus de brassage.
De toutes les façons, on est dans l'armée. Et puisque ceux qui vont continuer à ne pas vouloir vont être pris pour des déserteurs ou des indisciplinés, et la justice militaire va faire son travail. Donc moi, personnellement, je ne trouve pas à cela un problème, étant donné que les objectifs que nous poursuivons sont les mêmes aujourd'hui et vus de la même manière par tout le monde.
Alors, une question qui vous est posée directement, monsieur le ministre, elle vient de Paulin Siviwa, des Butembo Nord-Kivu. Il demande si les troupes du général déchu Laurent Kunda appartiennent au FRDC et si ces troupes seront brassées.
D'abord, si on dit que les troupes de la 81e et de la 83e sont des troupes qui sont favorables, qui sont proches du général déchu, de M. Nkunda, puisqu'il est, il n'est plus général reconnu par les FRDC, ce sont des éléments qui sont administrés par la 8e région militaire. Et lorsque les rations, par cette ration ou les fonds de ménage, est donné par la 8, à travers la 8e région militaire. Et puisqu'ils reconnaissent cette administration, donc ce problème n'est pas un problème majeur dans la mesure où le moment est venu, puisqu'il s'agit maintenant de les relever pour les envoyer vers le centre de brassage, étant donné que nous avons déjà le nombre de brigades requises pour le nombre requis, pardon, pour sécuriser la province du Nord Kivu, nous allons maintenant gérer ceux qui ne vont pas aller comme étant des indisciplinés et des déserteurs.
Donc on peut comprendre que même le général déchu Laurent Kunda lui-même appartient à FARDC?
Non, j'ai dit Kunda, M. Kunda, vous l'avez reconnu qu'il a été déchu. Quelqu'un qui est déchu, il est civil pour nous. Il n'est plus pris en compte par les forces armées de la République démocratique du Congo et on ne le reconnaît pas. Mais la 83e et la 81e continuent à être administrées et gérées. Si le commandant région a besoin du commandant de bataillon ou le commandant de la 83e brigade, il vient répondre à l'appel du commandant de région.
Oui, colonel Raymond Omba, vous êtes sénateur et président de la commission défense et sécurité du Sénat. Comment, dans votre commission, vous gérez cette question des brigades, au fait, qui posent encore de préalables avant d'aller au brassage?
Madame, je m'excuse, je suis un peu enrhumé, donc si jamais la voix n'était pas claire, vous voudrez bien m'excuser. Ce problème, c'est un problème national, il ne concerne pas seulement le Sénat. C'est vraiment dramatique qu'il y ait des unités qui obéissent à un militaire qui est déchu de son grade et que ce militaire-là ne soit pas interpellé. Et l'auditorat militaire est là, au Nord Kivu. Je sais qu'il y a un service d'auditorat militaire. Mais comment peut-on expliquer que des militaires qui relèvent de la 8e région militaire puissent obéir à un général déchu et que l'auditorat n'intervienne pas? Comment on peut expliquer ça?
Vous suivez une rediffusion de l'émission Dialogue entre Congolais, produite le 29 août 2006.
Dialogue entre Congolais vous la propose parce que l'unification de l'armée constitue une étape importante pour la RDC. Oui, monsieur le ministre, pratiquement le colonel Raymond Omba pose une question, comment comprendre cela?
Je dois dire que le problème qu'on a eu avec l'auditorat jusque-là, c'est que on a eu un problème de grade et de gestion de nombre de magistrats à gérer dans les différentes garnisons. Et le monsieur Kunda ne faisant plus partie des forces armées de la République, donc nous ne le reconnaissons pas. Et comme je l'ai dit, le commandant de la 83e brigade et de la 81e, je sais que celui de la 83e, par exemple, est à Mushaki, où ils attendent d'aller dans le centre de brassage. Ces gens-là n'ont pas posé de problème aujourd'hui, au moment où je parle, puisque moi-même j'ai été, je les ai vus, j'ai eu à avoir une causerie morale avec eux pour les préparer à aller dans le centre de brassage. C'est qu'à un moment donné, il y a eu beaucoup d'intoxication et je ne soutiens pas, je n'ai pas soutenu un seul instant le moment où ces gens-là ont refusé d'aller dans le centre de brassage. Mais ce qu'on a fait, c'est que on a fait ce qu'on devait faire pour que ces gens-là viennent et aillent rejoindre le centre de brassage. Donc, j'ai parlé des problèmes des magistrats et aussi des problèmes d'un capitaine qui dirige une garnison, un capitaine à l'auditorat, qui ne peut pas juger un colonel, par exemple. Et c'est un problème qu'on a soumis à la présidente de la République pour qu'on puisse revoir le grade des magistrats et aussi recruter de nouvelles unités pour permettre à la justice militaire d'être outillée et faire son travail correctement.
Oui, colonel Jacques Ebenga, donc vous venez de suivre les différentes interventions par rapport à ces unités, au fait qu'ils ne sont pas encore brassés, mais le problème se pose plus par rapport à ces unités qui posent encore des préalables pour aller pour rejoindre le processus de brassage.
Oui, cela est vrai que il y a de multiples problèmes à l'est du pays et j'ai vu M. le ministre aller lui-même chercher à les résoudre pendant plusieurs jours. Ces problèmes restent pendants dans plusieurs cas. Mais je voudrais exprimer une certaine inquiétude quand j'entends le colonel Biato, qui est un officier de bonne valeur, affirmer qu'il y a le nombre des gens à brasser n'est pas connu et que on peut en fait selon ce qui se présente. Alors je vois comment il sera difficile pour Monsieur le ministre de planifier une activité qui n'a pas dont les contours ne sont pas définitivement cernés. Mais pour autant que je sache, si je vois qu'il y a 12 brigades brassées ici, ça fait à peu près 50 000 hommes, donc il doit rester à peu près 30 000 hommes à brasser parmi les gens qui veulent intégrer l'armée. D'autres vont être démobilisés, bien sûr. Donc sur les 80 000 à peu près, 80 000 à 100 000 hommes qui seraient disposés à entrer l'armée. Donc il y a à peu près ces 30 000 là. Malheureusement, et là je suis d'accord avec le colonel Bieto, quand il dit ça, il affirme certainement cela en disant, en pensant au fait que les gens arrivent sans arrêt pour le brassage. Ils viennent des milices, ils viennent des maïmas, et le nombre est élastique et inconnu. Alors, on ne sait pas jusque quand on continuera ce programme de brassage. Quand Monsieur le ministre lui-même nous dit que il insiste pour que les gens rejoignent le processus de brassage et que ces gens résistent à cela, il n'y a aucun délai qui leur est donné apparemment jusque-là. Ils viendront un peu quand ils le voudront. Cela complique la tâche du ministre pour la planification de l'opération de brassage. Également, il y a un problème de commandement. À part le fait que ces unités de la 81e et 83e soient administrées par la solde, par la région militaire, mais le commandement qui s'exerce sur elle, lequel? Puisque les hommes de ces brigades obéissent à un ancien officier de l'armée, qui donc constitue une milice. Il y a donc là un problème, non seulement de poursuivre l'officier, ex-officier qui les commande, mais également les hommes qui obéissent à cet officier, qui donc, dorénavant, constitue une milice, qui est illégale. Alors, je ne sais pas quelle est l'attitude que Monsieur le ministre adopte vis-à-vis de ces hommes-là, à part le commandant, l'ancien officier qui a été déchu.
Oui, comme nous sommes dans ce studio avec le ministre de la Défense lui-même, il peut directement nous éclairer un peu sur cette question avant de passer à un autre point de cette émission. Monsieur le ministre.
D'abord, je voudrais corriger certaines affirmations en disant que j'ai ici avec moi un document du Centre de coordination des opérations conjointes. qui me donne la situation des effectifs restants encore à traiter. Et ici, il y a les éléments qui sont en attente de vérification, qui sont à 54 000. Les éléments qui sont en attente d'identification, vérification et orientation, qui sont à 30 000, ce qui fait un total de 86 000 éléments. Bien sûr, vous savez que en Ituri, avant que les éléments de Matata ou de Pitra Karim acceptent de rejoindre le processus d'intégration, ces gens-là avaient continué à recruter les éléments, les enfants ou d'autres qui étaient démobilisés. Donc, il y a eu quelque chose, quelque part, un peu comme un cercle vicieux, et que maintenant que ces gens ont accepté d'adhérer dans le processus, il devient beaucoup plus facile puisque nous prenons ceux qui sont qui veulent intégrer l'armée. Je crois que nous sommes en situation de post-conflit et vous savez que ce processus n'a pas évolué d'une manière rectiligne. Il a évolué en temps de scie. Il y a eu au moment où les choses allaient de l'autre côté, c'est d'autres dynamiques qui se produisaient. Donc, pour ce qui concerne la 83e brigade, je dis, cette 83e brigade, elle est en stand-by là où elle est. On attendait de les relever. Et maintenant que la brigade qui était en formation à Rumangabo et celle de Nyalé qui vont terminer les formations, nous allons pouvoir les amener parce que là, ça nous épargne sur le problème de transport. Donc, il y a aujourd'hui, avec la réalité des élections qui ont eu lieu partout où tout le monde a participé, je crois que beaucoup de gens ont compris qu'ils ne peuvent pas rester derrière cette dynamique qui nous amène directement vers l'établissement d'une armée réellement intégrée. Ici, le processus de brassage, c'est un processus psychologique où les éléments qui se sont rentrés dedans hier doivent aller sous le même commandement. Vous savez que ça ne peut pas manquer de plaisanteurs. C'est ça le problème. Je crois que nous sommes optimistes et engagés à faire en sorte que ce processus aille dans la bonne direction et que lorsque nous allons commencer le programme de montée en puissance de l'armée nationale, avec le programme qu'on a commencé avec le SEC, c'est la section européenne qui est censée nous assister dans la réforme de secteur de sécurité, nous allons pouvoir avoir des éléments et là, les règlements militaires vont être appliqués d'une manière stricte pour nous permettre d'avoir des éléments qui servent réellement ce pays.
Alors, parlons maintenant des cas, du cas particulier des gardes des membres de l'espace présidentiel. Et on sait que selon une décision du Conseil supérieur de la défense du début mai, les effectifs des gardes personnels de l'espace présidentiel devaient être brassés et confiés à la seule gestion militaire. Alors, coup de projecteur sur ces éléments avec Georges Kamdjova.
Au mois de juin, le vice-président en charge de la défense et sécurité estimait la garde du président Kabila à environ 12 000 hommes. Ces derniers devaient être brassés à ceux d'autres unités pour constituer la garde républicaine. C'est Joseph Kabila lui-même qui le disait d'ailleurs dans une interview au magazine Jeune Afrique paru le 9 avril. Trois mois après, dans une interview à Radio Kapi, le vice-président en charge de la défense et sécurité, Azarias Ouderoua, estimait la garde de son homologue Jean-Pierre Bemba à plus de 1 000 hommes. Selon lui, une partie de cette garde était à Maluku, à 80 km de Kinshasa. Quant au vice-président Ouderoua lui-même, il estimait être le moins concerné par la question des gardes. « Ma garde est légère en termes de nombre et conforme aux accords », nous avait-il déclaré lors d'une interview le 25 juin. Tout au long du processus, les ONG telles qu'International Crisis Group et Amnesty International n'ont cessé de mettre en garde contre le fait que le noyau des armées des anciens belligérants n'obéissait qu'à leur chef. Il reste à savoir ce qui est fait concrètement pour brasser ces éléments. Ce n'est pas tout. Qui pourrait sécuriser les membres de l'espace présidentiel si leurs gardes vont en brassage? Et qu'est-ce qui arriverait si elles n'y vont pas? Et s'il y a brassage, que feraient ces gardes brassés en cas d'échec de leur ancien chef?
Monsieur le ministre, avant de commenter ou bien de nous donner un peu certaines explications par rapport au brassage des gardes et des membres de l'espace présidentiel, je vous invite à suivre la question de cet auditeur à partir du Maniema.
C'est Ousseni Kalonda Sébastien de Kindu au Maniema. Ma question est celle-ci, c'est juste de savoir, notre armée congolaise a combien de soldats et la garde républicaine, les gardes rapprochés du vice-président Jean-Pierre Bemba sont classés dans quelle armée finalement?
Oui, monsieur le ministre.
Merci, M. Ousseni de Kindou. Je dois vous dire qu'aujourd'hui, avec l'assainissement qui a eu lieu dans l'armée, nous avons 166 000 actifs au sein des forces armées de la République démocratique du Congo, les inactifs étant transférés au ministère des Affaires sociales pour l'administration. Et la garde républicaine et la garde commise à la sécurité des autorités politico-militaires de la transition administrativement dépend du ministère de la Défense nationale. Et si vous voulez, j'ai la situation qui m'a été transmise par le centre de connaissance d'opérations conjointes. Pour les éléments, les unités restant à contrôler, garnison de Kinshasa, nous avons la garde républicaine où il y a 6528, escorte du vice-président ECOFIN 630, escorte du vice-président politique défense et sécurité 419, compagnie escorte état-major général 317. Il y a la dose, c'est-à-dire la division des œuvres sociales, militaires, les veuves, les orphelins, c'est 3000. L'état-major renseignement 922, et ainsi de suite. Ça fait un total de 16 000 éléments qui se retrouvent dans cette catégorie.
Oui, monsieur le ministre, si nous ne parlons que du cas spécifique de ceux-là qui protègent le membre de l'espace présidentiel, et Jeannot, par exemple, Kiaï Madelou Mbashio Katanga, veut savoir pourquoi les ex-belligérants ne veulent pas que les éléments qui leur sont proches soient brassés.
Bon, cette question, lorsqu'on l'a abordée au mois de mai, nous a paru délicate. Mais une commission néanmoins avait été mise en place. Cette commission était dirigée par le feu général Bouki, que le Seigneur prenne son âme, qui avait fait un travail louable et qui nous a permis d'établir toutes ces données dont je vous fais part ce soir. Il avait été décidé que ces éléments aillent dans le centre de brassage comme tous les autres. Mais cela a mal coïncidé. Le 31 mai, c'était la date où la Monique reprenait sa garde auprès des vice-présidents Robert Roy et Jean-Pierre Bemba. Donc il était indélicat pour le Conseil supérieur de la Défense de décider de prendre, de les enlever les éléments qui étaient avec eux depuis longtemps pour les ramener de nouveaux éléments, bien qu'ils aient été brassés. Donc c'est ça le problème auquel nous étions confrontés, et on a attendu que on arrive à la fin du processus pour que ces gens aillent dans le centre de brassage.
Oui, colonel Raymond Omba, Omar Kisangani de Kinshasa, veut savoir pourquoi les soldats du président Kabila ne sont pas brassés. Dans le même ordre d'idée, Isaac Kisangani en province orientale demande pourquoi on a retardé les brassages de GSSP. Qu'est-ce que vous en avez, quelles sont les mesures que vous avez prises par rapport à cette situation à la Commission défense et sécurité du Sénat?
Merci madame pour la question. La commission de la défense n'a pas pour but de prendre des mesures. La commission de la défense est là pour l'élaboration des lois. Je crois que c'est un Sénat et n'a pas d'autre but que de prendre des lois et ça s'arrête là. Tout à l'heure, monsieur le conseiller Binga a dit qu'il y avait un déficit d'information entre le Sénat et le ministère de la Défense nationale. Je m'oppose à cette façon d'interpréter ce que j'avais dit. Le Sénat, madame, a tout un processus pour pouvoir entrer en contact avec les ministères et avec les services de l'État. Nous avons des questions orales, des questions écrites. Nous avons des interpellations, ce sont les voies légales qui nous sont données pour pouvoir entrer en contact avec les différentes autorités. C'est ce que nous avons fait et je pense que le ministre est là. Il a été interpellé, il est venu au Sénat, il a donné les réponses aux questions qui lui ont été posées.
Par rapport au brassage, par exemple, des troupes de GSSP?
Non, pas. Le problème ne se posait pas à cette époque-là concernant les GSSP. Le problème, c'était le brassage dans son ensemble. Comme on voyait que le mouvement de brassage était lent, les questions lui avaient été posées, surtout en rapport avec l'insécurité qui bat son plein à travers la République démocratique du Congo. Alors les questions lui avaient été posées spécialement sur le plan sécuritaire et subsidiairement, parce que ce sont les brigades brassées qui devaient assurer cette sécurité. On voulait savoir comment ça évoluait. Voilà comment le problème avait été posé.
Oui,
je reviens maintenant sur les gardes des différentes autorités de la transition. Ces gens, je pense, madame, le ministre vous a donné la délicatesse du problème. Ce n'est pas les VIP qui refusent que leurs hommes aillent au brassage, c'est la délicatesse du problème. Le ministre vous a dit que à un moment donné, la MONUC a dû assurer la garde de ces personnalités. Mais vers le mois de mai, il leur a retiré les hommes qui assuraient leur garde. En conséquence, il fallait les rassurer. C'était leurs hommes qui assuraient cette protection-là. Et il vous a donné les raisons.
Oui, monsieur le ministre, que répondre à la question des 7 auditeurs qui demandent pourquoi, en fin des comptes, par exemple, les éléments attachés, les éléments de GCSP ne sont toujours pas partis au brassage?
Oui, je dois rassurer l'auditeur que aujourd'hui, il y a un centre de brassage, le 7e, qui a été ouvert à Kibomango, où nous avons 838 éléments.
Aujourd'hui,
dont 691 qui sont les éléments de la garde républicaine. Nous avons 46 qui sont des ex-RCD, c'est-à-dire de la garde du vice-président Bourgeois. Nous avons 67 qui sont des ex-MLC et 34 ex-Maïmaï. C'est un processus qui a commencé et certainement, je dois avouer que ça a connu assez de retard. Donc,
et ces unités que vous dites qui sont à Kibomango, si je pense, si j'ai bien saisi le nom que vous avez dit, Kibomango, c'est où?
C'est ici, en dehors de Kinshasa.
Et ces unités, c'est pour former quoi?
C'est pour former une nouvelle unité, des éléments avancés qui ont fait partie des éléments des gardes, des responsables politico-militaires.
Est-ce finalement pour former la garde républicaine, parce qu'on a toujours attendu la formation de cette garde républicaine et que ça a tardé?
De toute façon, la formation d'une garde républicaine sera de la décision des autorités d'après la transition. Et celle qui continue à œuvrer aujourd'hui œuvre et continue à œuvrer jusqu'à l'élection du nouveau président.
Oui, colonel Jacques Ebenga, vous venez de suivre les différentes interventions par rapport même à ces cas spécifiques des gardes attachés aux membres de l'espace présidentiel. Et le ministre vient de nous annoncer là qu'aujourd'hui a commencé le brassage même de certaines unités de ces gardes-là.
Le ministre nous dit que c'est aujourd'hui, oui. Je ne sais pas si c'est aujourd'hui comment cela a commencé effectivement, parce qu'il y a déjà 2 mois, on nous avait dit que 2 bataillons étaient envoyés au brassage. 2 bataillons de cette garde présidentielle. Peut-être que ça ne fait que commencer maintenant, mais cela rejoint ce que le ministre a dit, qu'il y a eu un grand retard dans le processus de brassage de cette garde présidentielle, que je n'appelle pas encore garde républicaine, et là le ministre est presque d'accord avec moi, que la garde républicaine viendra. Elle sera formée peut-être ultérieurement, parce que là, c'est toute une mentalité, toute une organisation nouvelle que la loi relative à l'organisation des forces armées va définir. Ce n'est pas encore fait. La loi a juste tracé les grands principes, mais les mesures d'application n'ont pas encore été adoptées jusqu'ici. Donc, cette garde n'est pas encore faite. Mais j'aimerais rappeler à monsieur le sénateur, le colonel Omba, que le Parlement n'a pas comme mission seulement de voter des lois, mais également de contrôler le gouvernement. Je crois que c'est pas oublié qu'il a dit ça. Donc, il faut également que le Parlement veille à ce que le gouvernement exécute bien les programmes qui s'est donné. Et cela devrait se faire en plus étroite collaboration avec le Parlement, donc entre le gouvernement et le Parlement, que ça ne se fait aujourd'hui.
Oui, monsieur le ministre, une autre question qui se pose en ce moment, parce que quand même, on se rend compte qu'il y a des unités qui jusque-là ne sont pas brassées, c'est une réalité. Alors comment gérer ces unités non brassées avant les élections provinciales et les deuxièmes tours des élections présidentielles?
D'abord, je dois assurer la population que autant qu'il y avait des éléments brassés au moment de l'organisation du premier tour des élections présidentielles et des élections législatives, le processus de brassage est un processus. Et la formation d'une nouvelle armée, c'est aussi un processus qui a des programmes à court, moyen et long terme. Donc il n'y a pas à s'inquiéter puisque l'armée reste une et elle a pour mission, objectif de sécuriser la population, assurer l'intégrité du territoire.
Alors avant la fin de cette émission, nous vous invitons à suivre cette autre question à partir du Kassai occidental.
Je réponds au nom de Jean-Marie Ambo. j'habite le territoire de Ndenda, province du Kassai occidental. J'ai une préoccupation, elle est la suivante. On se dit que le brassage, seul, pourra résoudre le problème politique actuel.
Oui, colonel Raymond Omba, pour vous répondre à la question de cet auditeur qui veut savoir si le brassage seul pourra résoudre la difficulté politique actuelle.
Je ne crois pas, madame. Je ne crois pas. Moi, personnellement, je pense que le brassage, c'est un processus qui avait été pris parce qu'il y avait des milices. On sort d'une guerre. Il y avait des milices un peu partout à travers le pays, selon les composantes et les entités. Il fallait résoudre ce problème. La seule manière, c'était de brasser. Mais je pense qu'après l'opération de brassage, cela n'exclut nullement la création d'une nouvelle armée qui obéira à d'autres critères comme à travers le monde entier. Moi, je pense que c'est un processus tout à fait passager et que bientôt, une fois que la Troisième République démarre, on trouvera d'autres voies et moyens pour qu'on crée une armée.
Oui, colonel Jacques Ebenga, également votre réponse à cet auditeur.
Oui, je rejoins l'affirmation du l'honorable colonel Omba, qui connaît bien le processus parce qu'il a été au chevet de ce processus, enfin à son berceau, au moment où monsieur le général, le maréchal Mobutu montait l'armée nationale, il a été l'un de ceux qui ont contribué à le faire. Donc je crois que ce qu'il dit est une vérité, que c'est un long processus, qu'il faut s'y atteler. Mais ce processus ne doit pas connaître des difficultés d'application des textes comme on le voit aujourd'hui, quant à la garde républicaine notamment, qui s'est donné des missions qui vont au-delà de sa mission qui est de protéger le président de la République au lieu de s'éparpiller à travers le pays et que ça crée un peu de désordre.
Oui, monsieur le ministre, votre réaction également?
Oui, je suis du même avis que les deux premiers interlocuteurs, les deux premiers intervenants, pardon, puisque après cela, comme je l'ai dit, le brassage, c'est une opération psychologique. Étant donné que ce n'est pas à 45 jours qu'on forme un militaire, comme l'a dit le colonel Omba, il y a des gens qui sont des ministres, il y a des gens qui n'ont jamais eu la formation militaire avant. Et ici, c'était d'abord de mettre tout le monde ensemble. Et au moment de commencer la montée en puissance de l'armée, nous allons maintenant nous atteler aux critères et aux règlements qui régissent une armée réellement professionnelle. Ça, c'est l'objectif pour lequel, je l'ai dit, la section européenne qui nous assiste dans la réforme du secteur de sécurité est déjà à pied d'œuvre. Il y a des experts qui travaillent pour pouvoir faire le white paper sur lequel on va s'inspirer pour former cette nouvelle armée.
Alors, une dernière question pour terminer, parce que vous nous avez annoncé là-bas qu'aujourd'hui commençait donc le brassage des unités attachées aux gardes donc des membres de l'espace présidentiel. Est-ce une première étape qui aura une suite ou c'est juste une façon de calmer un peu la tension qui se vit en ces moments même après les événements du 21 et du 22 août dernier?
Je dois avouer qu'aujourd'hui, c'était une façon de parler. Mais comme l'a reconnu le colonel Ebenga, ça fait depuis quelques mois que cette opération a commencé. Et si on parle de deux bataillons, vous savez que le processus, il y a les gens qui choisissent l'intégration et ceux qui choisissent de retourner dans la vie civile. Ce qui fait que s'il y a 1000 ou 1200 qui rentrent, on peut avoir 400 ou 500 qui décident de quitter l'armée et d'aller faire la formation d'intégration avec la CONADER. Donc, c'est une façon de parler, mais ces gens sont dans les centres de brassage depuis plus d'un mois.
Donc, ça va se poursuivre?
Ça se poursuit.
Merci beaucoup, monsieur le ministre. Je rappelle que nous étions dans ce studio avec monsieur Adolphe Nossumba, ministre de la Défense, et sur la ligne téléphonique avec l'honorable Raymond Omba, qui est sénateur et président de la Commission Défense et Sécurité, bien entendu. Nous étions avec le colonel Jacques Ebenga, qui est expert militaire. Cette émission sera rediffusée demain matin à 4h45 heure de Kinshasa. Et au nom de toute l'équipe de Radio Okapi et des dialogues entre Congolais, nous vous disons merci pour votre attention et à la prochaine.